VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Kenya, le ministre de l'Intérieur a interdit ce jeudi les manifestations dans le centre des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, théâtre ces dernières semaines de rassemblements de l'opposition en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre. Le gouvernement kenyan a évoqué la menace claire, présente et imminente de troubles à l'ordre public suite à la campagne de manifestation entreprise par l'opposition dans ces trois villes pour protester contre la commission électorale chargée d'organiser le scrutin du 26 octobre après l'invalidation en justice de la présidentielle du 8 août. Cette commission a annoncé hier que les 8 candidats en lice lors de l'élection invalidée par la justice peuvent se représenter au scrutin du 26 octobre. Solange Yamoulissa.
À la suite de l'annulation par la Cour suprême du Kenya de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, la commission électorale avait convoqué une nouvelle élection fixée au 26 octobre entre M. Kenyatta et l'opposant Raila Odinga. Saisie par un des 6 autres candidats, la haute cour a jugé que tous les candidats du premier scrutin, s'ils le souhaitent, devraient pouvoir se représenter à l'élection du 26 octobre. Raila Odinga avait annoncé mardi son retrait de la course, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour garantir un scrutin libre et équitable. Selon l'opposition, le retrait de M. Odinga devrait automatiquement conduire à l'annulation du scrutin du 26 octobre et à l'organisation de nouveaux processus électoraux pour une date ultérieure. La commission électorale a précisé que M. Odinga et son colistier ne lui ont pas transmis le formulaire pour entériner leur retrait. Elle appelle l'ensemble des acteurs au calme et au dialogue pour s'assurer que les élections puissent être organisées avec succès et que les pays puissent aller de l'avant.
En RCA, le conseiller de l'ONU pour la prévention du génocide, Adama Dieng, a terminé mercredi sa visite dans le pays. Il a appelé à des mesures d'urgence pour éviter que la Centrafrique ne s'embrase de nouveau. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila fait le point.
Arrivé vendredi dernier à Bangui, Adama Dieng a rencontré tour à tour les autorités centrafricaines ainsi que des responsables des médias. Le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide s'est aussi rendu à Bria, une localité de l'est du pays durement affectée par les dernières violences. Sur la question du risque du génocide en Centrafrique, M. Dieng a précisé au cours d'une conférence de presse que la situation est grave, mais il y a de l'espoir.
Les tensions intercommunautaires ou les formes de discrimination contre un groupe sur la base de l'identité ou l'incitation à commettre des atrocités criminelles entre autres sont hautes. Tant d'indicateurs, de facteurs de risque qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, pourraient déboucher sur la commission d'atrocités criminelles. Et j'entends par atrocités criminelles, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, nettoyage. Et c'est dire donc qu'aujourd'hui, la situation en Centrafrique, il ne faut pas se voiler la face, elle est grave. Mais fort heureusement, il y a aussi de l'espoir.
L'ONUsien, avant de quitter Bangui ce mercredi après-midi, a appelé à la mise en place des mesures d'urgence pour apaiser les tensions intercommunautaire. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le Rwanda a encore une fois rejeté comme sans fondement le rapport de l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch qui accuse l'armée rwandaise de torturer pour obtenir des aveux de suspects détenus illégalement. Les détails avec Morgan Guiriek.
Johnson Businge, ministre rwandais de la justice, avait déclaré mardi ne plus répondre à Human Rights Watch et que ces accusations, comme toujours, sont des mensonges qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme mais uniquement combattre le Rwanda. Hier, dans un communiqué, M. Businge ajoutait qu'il n'y avait aucune preuve crédible de ces accusations, que le Rwanda est signataire de la Convention contre la torture et la respecte. Human Rights Watch a affirmé avoir documenté 104 cas de personnes détenues illégalement, dont une majorité ont été victimes de torture, bastonnades, décharges électriques et simulacres d'exécution dans des centres de détention entre 2010 et 2016. À la mi-juillet, l'ONG avait publié un autre rapport accusant les forces de sécurité d'avoir exécuté au moins 37 petits délinquants dans l'ouest du pays. Kigali a toujours rejeté catégoriquement toutes ces accusations.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Côte d'Ivoire, le gouvernement réfute toute forme de dissension entre le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Cette clarification intervient deux jours après l'incarcération d'un proche de M. Soro, Eric Manirakiza.
D'après le porte-parole du gouvernement Bruno Conné, il n'y a pas de raison qu'il y ait des dissensions entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. M. Conné a toutefois nuancé que s'il y en a, cela ne viendra pas du président. Le chef du protocole de M. Soro, Souleymane Camarate Conné, alias Sol to Sol, a été inculpé de complot contre l'État à la suite de la découverte en mai d'une cache d'armes dans sa villa lors d'une mutinerie à Boaké. Son arrestation et son incarcération lundi ont renforcé la spéculation de dissension entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Dans une lettre ouverte publiée en ligne hier, Souleymane Camarate Conné accuse le pouvoir de viser plutôt son patron, Guillaume Soro. Mais Abidjan a mentionné que le gouvernement laissait la justice faire son travail. Membre du parti au pouvoir, la presse ivoirienne prête à M. Soro l'ambition d'accéder à la tête de l'État en 2020.
En Guinée, la technologie numérique a amorcé une expansion. Les idées ne manquent pas, mais l'utilisation et l'accès à l'outil informatique restent des défis à relever. Dans la capitale Conakry, certaines activités sont finalement devenues performantes grâce à des développeurs de logiciels. Reportage de notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
Alpha Madou Diallo explique à sa nouvelle recrue la solution numérique qu'il propose à ses clients.
Notre spécialité, c'est de fournir des logiciels qui sont simples à utiliser et qui répondent aux besoins locaux. Le besoin local, c'est quoi? C'est de pouvoir faire ses comptes, la comptabilité, le stock, RH et tout ce qui en suit à partir d'une seule et même application.
Les commerces et les PME sont les cibles de BND Systems. L'entreprise d'Alpha Madou a déjà installé 38 machines, dont une dans cette pâtisserie.
Parce qu'avant, on faisait des erreurs au niveau du calcul. Parce que si les clients viennent pour acheter quelque chose, avec du calculatrice, on faisait beaucoup d'erreurs. Des fois même, ça peut arriver à notre niveau de faire des manquants, mais actuellement, ça va. Avec cette machine encore, ça nous a aidé beaucoup de faire rapidement les calculs, de faire la vente.
Pour ce client, c'est une satisfaction de voir l'opération se dérouler sans retard, mais il souhaite voir le dispositif partout.
Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très rapide. La rapidité, la fiabilité, ça évite aussi de faire la quai. Malheureusement, quand vous partez ailleurs, ça n'existe pas partout dans le pays.
Dans le plus grand centre commercial de la capitale, et comme dans tout le pays, très peu d'espace sollicite les solutions point de vente. Ceux qui l'utilisent sont de plus en plus exigeants.
Avec le temps, on a vu que le besoin était beaucoup plus énorme et on a ajouté des nouvelles fonctionnalités parce que le logiciel nous permettait de le modifier à aisance. Donc on a apporté des fonctionnalités en termes de sécurité pour éviter le vol, par exemple, des vendeurs et tout ça. Et aussi ajouter des fonctionnalités telles que la comptabilité, la paye. Et c'est ce qui nous a permis de basculer vers les PME.
La diffusion des technologies numériques est rapide en Guinée, mais pas à une grande échelle. Selon la Banque mondiale, 60% des populations mondiales est exclue d'une économie numérique en pleine expansion. Ici, en Guinée, ils sont nombreux des Guinéens à ne pas maîtriser l'outil informatique, ce qui constitue un frein à l'accès aux possibilités qu'offre le numérique. Conakry, Zakaria Kamara, pour VOA Afrique.
Et pour terminer, au Nigeria, la justice nigériane a ordonné la saisie définitive de 4 propriétés appartenant à l'ex-ministre du pétrole, Diezani Alison Madueke, d'une valeur de 7 millions de dollars, des biens qui proviendraient de détournement massif de fonds publics selon les autorités judiciaires. La décision prise mercredi par la Haute Cour fédérale de Lagos concerne des résidences dans plusieurs villes du pays, Lagos, Abuja et Port-Harcourt, appartenant à Mme Diezani Alison Madueke. cible de nombreuses enquêtes et saisies de propriétés ordonnées par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers. Plus de détails sur notre, plus d'informations sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Mr. Flavor.